Bonjour. Il est vivant. Il était vivant dans les actes, il est vivant aujourd'hui. Et je lis pour introduire à la prédication dans Acte 2, les versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Mais voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie. » La Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Il n'en revenait pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, » disaient-ils. « Ils ont trop bu. »
Nous continuons cette lecture dans le livre des Actes, les versets 1 à 8 du chapitre 19. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie, mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Paul se rendit ensuite à la synagogue et pendant 3 mois, il prit la parole avec une grande assurance. Il y parlait du règne de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs.
Dans 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 6, dans la Bible, version du Semeur. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font partie du monde. C'est pourquoi ils tiennent le langage du monde et le monde les écoute. Nous, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur.
Bonjour à chacun et chacune. J'ai intitulé la réflexion que je veux vous apporter aujourd'hui « La Pentecôte et le monde des esprits ». Ce n'est pas très commun de dire les choses comme ça. Et dans notre société où il y a encore une certaine imprégnation de « mais pour combien de temps ?» de culture judéo-chrétienne, le mot de Pentecôte est essentiellement connu pour les congés auxquels il donne droit. Et pour nous, mais pour nous chrétiens, comme l'a rappelé Bernard en début d'introduction, il est absolument connu pour la venue de l'Esprit Saint sur les 120, les 120 premiers disciples qui étaient assemblés à Jérusalem après l'ascension du Christ, avec la mission d'attendre jusqu'à ce que quelque chose leur soit donné. Et chacun sait probablement que le terme Pentecôte signifie cinquantième et tire son origine de la fête juive des semaines, des sept semaines, c'est-à-dire environ 50 jours, qui suivaient la présentation des prémices, des récoltes. Donc en fait, pour les juifs, la Pentecôte, c'est la fête des récoltes. Pour les chrétiens, aujourd'hui, la Pentecôte, c'est le baptême de l'Esprit Saint sur les 120 disciples. Et fort heureusement, nous gardons dans nos milieux évangéliques la bonne tradition à laquelle je n'entends pas faillir aujourd'hui et qui consiste à maintenir la commémoration des fêtes chrétiennes dans les thèmes de nos messages. Peut-être quelques mots sur le fait historique. Ce qui s'est passé à la Pentecôte et dont nous avons lu le récit est décrit comme un phénomène absolument étrange, étonnant en tout cas, composé de trois phases qui se sont succédées, mais j'insiste sur le fait de dire sortant totalement de l'ordinaire. D'abord, ce grand bruit, semblable à un vent violent, venant du ciel, n'est pas du tout naturel, parce que il provoque un mouvement de foule chez les pèlerins venus à Jérusalem, et non pas un mouvement de foule pour se mettre à l'abri de la pluie ou d'un orage naturel qui arrivait, mais pour voir ce qui se passe, tant le phénomène est étonnant et surprenant. On pourrait en déduire facilement que la météo du jour ne présageait pas du tout un orage ou une tempête. Quoi qu'il en soit, cet étrange phénomène est suivi d'une vision collective tout aussi étonnante qui s'adresse, elle, aux disciples réunis, et cette vision des sortes de flammes qui descendent probablement sans combustible, mais des flammes qui se posent sur la tête de chacun. Et il y avait de quoi être effrayé, mais pas pour longtemps, parce que aussitôt l'Esprit de Dieu submerge ses disciples réunis au point qu'ils deviennent méconnaissables, notamment sous l'angle des capacités que la seule raison est incapable de produire. Bien sûr, deux réactions arrivent dans la foule, d'une part l'admiration, Comment se fait-il que ces gens de Galilée, c'est-à-dire sans instruction, ou avec une instruction modeste, puissent parler toutes les langues? Ben oui, c'est étonnant. Et d'autre part, la dérision. Ils sont pleins de vin doux, complètement givrés, ces disciples réunis. Ils ont trop bu. Cet épisode si extraordinaire et si glorieux, au point qu'on en parle encore aujourd'hui, peut nous poser quelques problèmes. Dans la mesure où nous disons volontiers que Dieu ne change pas, que Dieu est fiable, que Dieu est permanent, à l'image du rocher qui n'est pas baladé par une vague et au gré des courants d'eau. Et nombre 23, 19 dit par exemple, je cite un verset, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintient-il pas ?» En somme, Dieu n'est pas une girouette, il est permanent. C'est une des caractéristiques de Dieu. Mais alors, en référence à ce caractère stable et permanent de Dieu, quelques questions peuvent nous assaillir. Est-ce que la Pentecôte était une action spéciale de Dieu visant à lancer l'Église chrétienne d'une manière particulièrement éclatante, hein, comme quand on lance un produit ou quand on lance une action spéciale par un événement unique pour le faire connaître? Ou bien pouvons-nous imaginer que c'est une manière d'agir de Dieu susceptible de réapparaître ici ou là? Deuxièmement, est-ce qu'à la limite, l'Esprit Saint se manifeste géographiquement au point où nous serions fondés à rechercher ici ou là des lieux saints plus favorables que d'autres à sa présence? Enfin, est-ce que nous pouvons aujourd'hui favoriser ou rechercher d'une manière ou d'une autre cette extraordinaire manifestation divine? En étudiant divers textes, je me suis rendu compte que le mot « esprit » avec un « e » minuscule figure à de très nombreuses reprises dans la Bible, non seulement quand on parle de l'Esprit de Dieu, là, avec une majuscule, l'Esprit Saint, mais aussi pour désigner différents êtres, différentes entités immatérielles et invisibles. Et je dirais que le monde des esprits, cher aux bandes dessinées, est en fait un monde réel et peuplé et dont la Bible parle. Notre texte de 1 Jean 4 nous exhorte à distinguer la nature des esprits qui nous environnent, voire nous influencent. Je me souviens qu'un jour, dans un cours de psychologie, d'études du développement de l'être humain, un professeur avait interrogé un camarade et j'avais dit, un tel, dites-nous, qu'est-ce que la pensée? J'aurais pas voulu être à la place de ce camarade, c'est pas très facile de dire, mais qu'est-ce que la pensée? Mais si on nous pose la question à nous, qu'est-ce que l'esprit? Quelle réponse allons-nous donner? Parce que c'est tout à fait différent si nous parlons de Dieu, si nous parlons des hommes, ou si nous parlons du monde des esprits. Globalement, on pourrait dire que notre esprit, c'est notre personnalité, ou plus précisément les valeurs que notre comportement manifeste de manière visible. Et cela signifie aussi que notre esprit personnel peut être influencé par d'autres esprits qui colorent en quelque sorte notre personnalité et notre comportement. Ce que nous pensons ne se voit pas, sauf dans notre comportement ou nos paroles. Pour désigner l'esprit, la Bible parle souvent ou dit souvent le mot « souffle ». Mais pas seulement dans le sens d'un mouvement d'air. Il y a un bruit semblable à un grand coup de vent. Pas seulement dans le sens d'un courant d'air. Parce que si je prononce le mot inspiré, sans contexte, vous êtes libre de penser à deux sens différents, remplir les poumons d'air, inspirer pendant que l'air est gratuit, inspirer, ou bien inspirer notre pensée, être inspiré comme ce matin, je me suis inspiré de la Bible pour vous apporter quelques réflexions, et peut-être, je l'espère, quand je vous parle, Dieu m'inspire d'une manière, évidemment, que je ne peux pas expliquer. Donc, si nous partons de l'idée que l'inspiration nous relie à ce qui nous influence, notamment spirituellement, il existe une offre, entre guillemets, une offre, si j'ose dire, extrêmement variée. En matière d'influence, le pire peut côtoyer le meilleur avec des contrefaçons parfois difficiles à démasquer. Le texte que nous avons lu en 1 Jean 4 est sans équivoque. Nous sommes appelés à identifier les divers esprits à qui nous avons affaire et à ne pas donner foi au premier venu. Je vais vous faire une petite illustration. Essayons d'imaginer un grand magasin self-service avec des rayons où il y a différentes choses. Et pour simplifier, disons que les trois catégories de rayons concernent des sources d'inspiration, des denrées destinées à nous influencer. Alors je vais mentionner les trois catégories de ces denrées destinées à nous influencer. D'abord le bas de gamme. Le bas de gamme, c'est ce qui est en dessous de tout. En dessous de tout, c'est des denrées qui se présentent sous forme de coffrets cadeaux, un peu genre coffrets cadeaux, des emballages. Très à la mode aujourd'hui, on a tout dans un emballage. Il y a plusieurs choses ou le nécessaire pour faire quelque chose. Ces sortes de packs qui contiennent des choses pour faire une chose précise. Ces coffrets sont présentés sous un très bel emballage, très attractif, peut-être très brillant, en tout cas très séducteur, mais lorsqu'on ouvre ce bel emballage, on tombe sur une boîte de magie. Une boîte de magie, elle contient divers instruments permettant aux esprits hostiles à Dieu de s'exprimer. Leur mode d'emploi, c'est initiation au monde des ténèbres. Par exemple, des disciplines qui s'opposent au projet de Dieu, qui prônent la révolte contre le Christ, de manière larveille peut-être, mais qui prônent cela, ou qui font la promotion de la divination, de la magie, des pratiques occultes, des pratiques ésotériques, des méthodes de divinisation de l'être humain, des méthodes d'auto-rédemption, et j'en passe. Alors, évidemment, c'est pas ce qui nous intéresse, nous sommes avertis contre ces choses, c'est un peu grossier pour nous, mais pas du tout pour le monde. Le moyen de gamme, c'est l'étage intermédiaire qui comporte des boîtes qui ont la particularité d'être emballées avec beaucoup de fantaisie. Les emballages sont assez attractifs, variés, il y en a un peu pour tous les goûts. Et quand on ouvre une de ces boîtes, on tombe sur un assortiment de brochures, de conseils, du genre trucs et astuces. Pas des recettes de cuisine, plutôt trucs et astuces, qui permettent de faire diverses choses plus ou moins utiles. C'est en fait le support de l'expression de l'esprit du monde des hommes naturels. Dans ce genre, il y a des recettes ou des conseils qui peuvent être intéressants, mais qui n'ont aucune référence externe à soi-même. Toutes ces recettes mettent l'humain au centre de tout, ne font aucune référence à Dieu, et ce sont les esprits humanistes laïcs qui se disent très ouverts, sauf bien entendu à la critique contre eux-mêmes. Interdit de critiquer l'humanisme laïque. C'est le règne du politiquement correct et des philosophies volontiers inspirées, bien qu'elles s'en défendent, par le pouvoir de l'argent, par la révolte, par la domination sur autrui, par les manipulations formulées en termes de bien-être ou de sécurité. On pourrait dire que c'est la religion sans morale, ou autrement dit, la religion du bien sans le mal. Ensuite, le haut de gamme, ce qui nous intéresse le plus, ce qui est au-dessus de tout. Sur ce rayon-là, tout est à portée de main, tout est clair, tout est visible, mais tout est si précieux, il n'y a pas d'emballage séducteur, mais tout est si précieux qu'on ne peut pas s'en servir à sa guise. Il faut d'abord avoir un contact avec le propriétaire des denrées. Et le plus incroyable, c'est que l'argent n'est pas utile pour cette catégorie, car ces denrées ne s'achètent pas. Elles sont seulement prêtées. On ne peut pas les détenir soi-même parce qu'elles ne peuvent appartenir qu'aux propriétaires. Vous l'avez compris, il s'agit des facettes de l'Esprit de Dieu. Je fais là une petite allusion au week-end que nous avons partagé sur les facettes de Dieu, les manières d'expression de Dieu, et aussi des esprits envoyés par Dieu en faveur des saints dont la Bible parle et qu'elle appelle les anges. Voilà ce qui nous intéresse plus que tout. Alors je finis ici ma petite illustration, mais je vais, avant de conclure, donner quelques mots sur les caractéristiques de l'Esprit de Dieu, parce que c'est évidemment le thème central de notre réflexion. Nos lectures nous laissent penser que l'événement de la Pentecôte chrétienne était un phénomène unique. Nous pouvons certainement l'affirmer, il n'y a pas eu dans l'histoire plusieurs Pentecôtes relatées comme le décrit Acte 2, avec un impact si extraordinaire sur les personnes. Il y a eu beaucoup de mouvements spirituels, beaucoup de réveils, mais comme la Pentecôte, probablement qu'il n'y en a pas eu d'autres. Je dirais que ce phénomène extraordinaire n'est jamais devenu un phénomène ordinaire. Pouvons-nous en déduire que l'Esprit de Dieu n'agit plus, ou du moins plus, de cette manière? Rien n'est moins sûr. Si nous lisons le livre des Actes et des Épîtres, nous constatons que l'Esprit Saint a continué d'agir de plus belle, comme il agit depuis la création du monde. Mais comme nous ne pouvons pas saisir l'Esprit de Dieu, ou le décrire, ou le voir, nous en sommes réduits à l'identifier par les effets qu'il produit. Et c'est à ce genre de discernement que nous sommes appelés, quand nous sommes appelés au discernement des esprits, mais il y a quelques nuances que je veux encore souligner. D'abord, quant à la nature du phénomène, le Saint-Esprit nous inspire et nous dirige lorsque nous invoquons Dieu, lorsque nous lisons sa parole, lorsque nous prions ou partageons l'espérance que nous avons dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si l'Esprit-Saint ne l'inspire. Donc, on peut dire qu'il y a, de la part de l'Esprit-Saint, une forme d'accompagnement, un cheminement accompagné, une évolution de l'Esprit dans nos vies. Par exemple, le chemin qui nous a amenés au baptême d'eau, le chemin qui a conduit chacun à la foi et qui a une durée invariable, cette inspiration quotidienne, entre guillemets, n'est pas ce qui est décrit en Acte 2. Les disciples, les 120 réunis à Jérusalem, étaient déjà croyants comme nous le sommes. Mais le phénomène de la Pentecôte se caractérise par une soudaineté absolument, par son effet imprévisible. L'Esprit de Dieu paraît survenir d'une manière extrêmement brusque, l'expression « tout à coup », l'expression « soudain » sont mentionnées, et cette soudaineté implique à l'évidence que ce n'était pas le résultat d'une préparation spéciale destinée à provoquer ce phénomène. Le changement qui survient dans les personnes est si rapide et si radical qu'il ne peut pas relever d'un quelconque entraînement ou perfectionnement théologique ou linguistique. Le contraste entre l'avant et l'après montre que L'intervention divine est une puissance qui change sans délai le cours des événements. Quant à la nature du résultat, on reste sans voix, c'est le cas de le dire, quand on pense à l'effet produit sur les disciples. Moi, j'en suis jaloux parce que j'ai toujours eu de la peine avec l'apprentissage des langues. L'allemand à l'école, c'était un vrai calvaire. L'anglais, c'était un peu difficile et j'ai jamais dépassé le stade du débutant. Seul l'apprentissage de l'argot allait bien. Donc, voilà. Mais que voyons-nous ? Des gens de faible culture, c'est un peu la réputation des Galiléens, des gens faiblement cultivés, qui deviennent instantanément capables de parler toutes les langues. C'est extraordinaire. C'est totalement irrationnel. Et encore une fois, cela n'a rien à voir avec une faculté personnelle que l'esprit aurait améliorée ou perfectionnée. Non, c'est miraculeux au sens d'un signe de la présence de Dieu. Rien ne dit par ailleurs que cette faculté extraordinaire ait persisté dans le temps, mais elle s'est manifestée à ce moment précis. En conclusion, s'il peut sembler normal, entre guillemets normal, hein, autrefois que l'Esprit de Dieu oriente et influence notre vie ordinaire de croyants, il est moins évident qu'il nous transmette une puissance dont l'effet serait de nous transformer complètement et radicalement, par exemple en témoins efficaces, jouissant de facultés qui n'ont rien à voir avec nos facultés naturelles. J'ai résisté personnellement un temps à l'idée qu'il puisse exister ces deux états de spiritualité chrétienne. Mais il suffit de lire la Bible et les Épîtres en particulier, comme nous le faisons tous, pour constater que l'inspiration ordinaire, si j'ose dire cela de la grâce de Dieu quotidienne, que l'inspiration ordinaire est très différente de l'inspiration extraordinaire de la Pentecôte. Les deux dimensions existent, elles sont différentes, l'une est plus ordinaire, l'autre est plus extraordinaire, elle ne s'exclut pas, elle se complète. Alors, je me disais, mais qui d'entre nous ne souhaiterait pas voir l'Esprit de Dieu dépasser positivement nos limitations personnelles, au risque de nous faire perdre pendant un certain temps le contrôle de nos facultés, non pas pour nous valoriser personnellement, mais pour secourir ou consoler nos semblables accablés de diverses épreuves, comme nous en avons parlé en début de matinée, ou qui ne savent pas pourquoi une tribulation particulière leur est imposée. Qui d'entre nous ne souhaiterait pas recevoir, même pour un temps limité, une efficacité dans son témoignage, comme celle de l'apôtre Pierre après la Pentecôte? Je suis sûr que personne de nous ne doute un seul instant que Dieu est tout-puissant et que son bras n'est pas trop court pour changer le cours des événements. Alors pourquoi notre foi, si petite soit-elle, ne déplace-t-elle pas les montagnes? Au sens évidemment symbolique, on ne va pas demander aux salèves de se déplacer, mais ne produit-elle pas des changements plus radicaux? Je pense à deux raisons qu'il nous faut rappeler. La première est que nous ne disposons pas à notre gré de la puissance de l'Esprit de Dieu, et nous ne discernons pas facilement ou pas toujours ce qu'il veut faire dans nos situations. Ce serait un ingrédient impératif. D'autre part, nous oublions parfois que les diverses manifestations de la puissance de Dieu, notamment dans les guérisons, sont des signes du règne de Dieu, pas un système. Les signes sont ponctuels, comme le sont les écriteaux sur la route qui nous indiquent une direction. Ce n'est pas encore la destination ultime, ce sont les indicateurs. Nous ne sommes pas encore dans le royaume, nous en avons les prémices. Évidemment, on pourrait crier au fatalisme, tout est joué, puisqu'on ne sait pas par qui ou en qui Dieu veut donner un signe de sa présence sur la terre ou au milieu de nous. En fait, qui Dieu emploie n'a aucune importance. Et rien ne devrait nous empêcher de demander à Dieu ce qui nous manque, c'est-à-dire la puissance pour que le monde croie. À l'évidence, l'évangélisation efficace est à ce prix. Le monde n'est pas très sensible à des arguments, mais il sera très sensible à des signes de la présence de Dieu, quel qu'il soit. Finalement, notre Pentecôte d'aujourd'hui ne devrait-elle pas consister à demander à Dieu qu'il mette en nous une qualité de foi telle que décrite en Hébreux 11, 1, une démonstration des choses qu'on ne voit pas habituellement, c'est-à-dire le domaine spirituel, l'Esprit de Dieu. Car le règne de Dieu, nous l'avons déjà dit, ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen.